Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, des films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com.
Dreams didn't make us kings. Dragons did.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale série durant laquelle nous reviendrons sur Swarm de Donald Glover et Janine Nabbers, disponible sur Amazon Prime. The Last of Us de Neil Druckmann et Craig Mazin, ça c'est disponible également sur Amazon Prime. Le Cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, disponible sur Netflix. Mare of Easttown de Brad Inglesby, disponible sur Orange OCS. Happy Valley de Sally Wainwright, disponible sur MyCanal. House of the Dragon de George R. R. Martin et Ryan Condal, disponible sur OCS. The Baby de Cyan Robbins Grace et Lucy Gamer, également disponible sur OCS. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui parce que c'est déjà pas mal en termes de séries. Nous vous rappelons que notre émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com et sur celui des films de la Gorgone, hein, donc lesfilmsdelagorgone.fr, et enfin chez tous les bons libraires. Pour causer série, je suis accompagné aujourd'hui de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Damien, tant que tu as la parole, je vais te laisser nous causer d'une série qui s'appelle Swarm, une série qui m'a l'air bien alléchante.
Swarm est une série extrêmement récente et que je trouve qui a été très discrète. Elle est disponible sur Amazon Prime, c'est fait par Janine Nabber et Donald Glover, je reviendrai dessus après. Et pour résumer l'histoire, c'est assez simple. La série suit le parcours de Dre, une jeune femme qui est obsédée par une pop star très inspiré de Beyoncé, avec un groupe de fans nommé The Swarm, c'est-à-dire les Saints, en référence à la pop star qui le suit, qui est surnommée The Queen, donc la reine, encore une référence indirecte à Beyoncé. La série prend à grande vitesse un tournant assez sombre en suivant la vie de Dre et de la fanbase, en rappelant toujours que le fanatisme produit rarement du bonheur. La série produit un mélange assez délicieux d'humour noir, de comédie horrifique, de satire sociale avec quelques éléments de thriller psychologique, et c'est un combo qui réussit parfaitement, et c'est normal vu que l'équipe qui le fait y est habituée. Donc vous avez parlé de Janine Nabbers qui a travaillé sur la série Unreal, qui en 2015, lors de l'essor des télé-réalités, ou plutôt de leur implantation, était une série qui critiquait la façon dont on recrutait les personnes et de la façon dont on les manipulait dans les shows. Mais elle a aussi participé aux excellentes séries Watchmen, que j'adore, et à la série Atlanta, qui également que j'adore et qui est liée à Donald Glover, que vous connaissez sans doute sous le nom du rappeur Childish Gambino, qui est un de mes artistes musicaux préférés et audiovisuels pareil, qui a été reconnu mondialement pour son clip This is America, que vous avez sans doute vu, et qui est du coup le réal derrière l'excellente série Atlanta. Alors, Swarm pourrait littéralement être un spin-off d'Atlanta, c'est-à-dire qu'on retrouve énormément de termes que la série aborde déjà, dont lors de la dernière saison et dans la saison de Swarm, on a un épisode totalement documentaire qui est extrêmement réussi et qui permet de créer un trouble jeu entre la réalité et ce qui est totalement fictionnel, qui permet facilement de faire des critiques sociales, mais qui piégera aussi sur certains points en détournant des images qu'on a l'habitude de voir, comme un moment où une des affaires qui cible la pop star reprend les images de la bagarre de Beyoncé dans l'ascenseur. C'est un des objectifs que la série fait avec brio, justement, c'est ce trouble jeu entre ce qui est réalité et fiction. Elle possède un humour particulier et quelques scènes très gore qui sont présentes, qui est portée par l'actrice qui jouerait à la perfection, qui est Dominique Fischbach, qui a une perfection dans ce rôle absolument glaçant, qui joue entre un malaise et un côté assez effrayant du personnage qui au final n'a pas tous les codes sociaux et n'essaie pas vraiment d'y adhérer, vu que tout ce qu'elle elle veut c'est rencontrer son idole. Donc je vous conseille Swarm sur Amazon Prime, qui a fait mon bonheur personnel et qui me fait patienter en attendant la nouvelle saison d'Atlanta fait par Donald Glover.
I'd like to go over your statement. The woman fell from the cliff, followed by the baby, which I caught like this.
Two police officers are dead, Natasha.
A boulder had fallen on them.
You think I crushed them to death with a boulder?
I think there's something you're not telling me.
We'll have a fun time together, won't we?
Yes.
What? You can trust me with your baby.
This isn't my baby, Reese.
Well, it is.
De mon côté, moi, je vais rester sur une série qui mélange la comédie, l'horreur. On est un peu dans des univers proches, bien qu'évidemment, on ne parle pas du tout des mêmes milieux sociaux et on ne parle pas de la même chose. Je vais vous parler de The Baby de Cyan Robbins-Grace et Lucy Gamer, qui est disponible donc sur OCS et qui est une série qui est showrunnée par Cyan Robbins-Grace, je vous l'ai dit, et c'est la productrice en fait de Sex Education, série qui a fait le buzz ces dernières années. Et Lucy Gamer, qui travaille aussi sur cette série. D'ailleurs, Lucy Gamer, au départ, The Baby, pour elle, c'était un court-métrage. Et, en fin de compte, elle va en faire une mini-série de 8 épisodes où on va donc mêler, comme je vous le disais, la comédie et l'horreur. L'horreur pure, un classique de série B avec ce bébé maléfique. Et puis, on va teinter tout ça intelligemment de discours inclusifs. Parce que bon, l'héroïne qui est campée par Michelle De Swart, excellente actrice, est en fait s'appelle Natasha dans la série, est une jeune femme très indépendante qui est attachée à sa vie indépendante, qui reçoit ses copines pour jouer au poker ou au jeu de cartes, quoi, voilà, et qui se fume des petits joints de temps en temps, qui a pas de mec en particulier ni de copine en particulier. Et qui surtout déteste les mômes, absolument, elle n'a aucun désir de maternité, elle n'en veut pas. D'ailleurs, elle est agacée par ses copines, il y en a une qui est enceinte et l'autre qui vient d'avoir un bébé, et ça la gonfle passablement parce qu'elle a l'impression qu'elle fout en l'air leur vie sociale avec ce gamin. Elle, rien que la simple vision d'une couche pleine de caca, ça la rend dingue. Elle ne supporte pas, d'ailleurs, il va y avoir une scène dans la série où elle va être confrontée, va finir par être confrontée à une couche bien remplie, on va dire, voilà. Et ça va être, à la limite, pour elle, un des trucs les plus horribles qu'elle va avoir à vivre dans cette série, où pourtant il y a pas mal de meurtres et de trucs assez, assez originaux. Alors, l'histoire, elle est assez simple, en fait, cette Natacha, elle s'est prise des vacances, elle s'est prise un peu pour s'éloigner un peu de son univers, elle bosse dans la restauration, tout ça, et elle se barre, elle a loué toute petite cahute qui est en bas d'un ravin, comme ça, au bord de la mer. Bon, en fait, en vrai, hein, ce serait totalement interdit de construire une habitation comme ça, au pied d'un ravin, qui fait des dizaines de mètres de haut, avec la mer à 3 mètres de la cahute. Mais c'est pas grave, ça donne un lieu esthétiquement assez particulier. Et puis, elle va être victime, en termes de mise en scène, de faire partie du hors-champ. J'ai envie de dire ça comme ça, parce que la série, elle s'amuse assez avec ça, le metteur en scène s'amuse avec ça, c'est-à-dire que, enfin les metteurs en scène qui se succèdent dans la série, parce que l'épisode 1 débute par une jeune femme qui a un bébé, qui se met au bord du ravin et qui finit par se suicider. Et il y a deux flics qui essayent de l'empêcher de se suicider et qui n'y arrivent pas, et ils essayent d'empêcher le bébé qui est avec elle de tomber, et le bébé finit par tomber. Point barre, générique, la série débute. Pendant 20 minutes, on suit la vie de Natacha et on n'en sait pas plus. Et puis elle arrive dans cette cahute qu'elle loue pour ses courtes vacances. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle voit tomber cette femme qu'on a vue au début de la série. Et elle réceptionne le bébé dans les bras. Voilà. Et à partir de là, en fait, ce bébé va être... on va développer une figure qui est bien connue des amateurs de cinéma horrifique, que ce soit... Alors, il y a les figures de Bambin maléfique, mais souvent... traité à travers la gémellité, comme dans The Other de Mulligan. Mais là, on est sur autre chose. On va être plutôt sur quelque chose qui est un mixte, en fait, on va dire, entre Mulligan, enfin, le traitement de l'enfance maléfique par Mulligan et It's Alive, le monstre est vivant, de Larry Cohen. Hein. Sauf que dans le film de Larry Cohen, le bébé attaque réellement, tandis que là, le bébé attaque pas forcément. Il va être dans une pièce et le bébé est cruel comme l'est un vrai bébé. En fait, il nécessite toute l'attention, il veut qu'on s'occupe que de lui. Et si on ne lui renvoie pas le même amour, eh bien, il se passe quelque chose. Et à chaque fois, les gens dans son entourage finissent par mourir. Et donc, il y a ce deal un peu maléfique avec ce bébé maléfique qui va se créer. Et Natacha va être obligée de devenir une mère plutôt investie, car sinon, elle risque à tout moment de mourir par la volonté du bébé. Alors, je vous en dis pas plus, parce qu'évidemment, il y a une raison, il y a tout un discours aussi qui est intéressant, hein, comment on réprime les femmes qui n'ont pas de désir de maternité, tout un discours sur l'avortement, quand on voit que c'est un droit régulièrement remis en cause, donc ça, c'est très, très intéressant. Et tout un discours aussi, parce qu'il y a la sœur de... Il y a la sœur de Natacha qui est, jouée par Amber Grappi, qui est tout l'inverse de Natacha. Natacha, elle est un peu renfrognée, elle est un peu dure à cuire, elle est, voilà. Tandis qu'elle est très expansive, elle est dans ses formes, elle est plus généreuse, elle est magicienne, elle a envie d'adopter un enfant. Elle vit en couple avec une autre femme qui est magicienne également. Donc ça crée une alliance un peu contre nature, comme ça, entre les deux frangines, qui sont deux opposés, jusqu'à temps qu'on découvre aussi la mère qui est à la tête d'une communauté lors d'un passage très folk horror. Et d'ailleurs, dans un des meilleurs moments de la série, puisque dans cette sorte de secte de bobos allumés, le bébé va avoir une incidence terrible parce qu'il y a plein de gamins. Il va faire des trucs aux gamins. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous conseille donc vivement cette série qui donc est une série, vous en aurez pour votre argent en termes d'humour, en termes d'horreur. C'est pas très long en plus, hein, les épisodes font 30 minutes, il y a 8 épisodes et ça a un début, ça a une fin, voilà, comme les Britanniques savent très bien le faire. Et je vous conseille donc vivement cette série horrifico-comique qui s'appelle The Baby et qui est disponible sur OCS. Vous écoutez Culture Prohibée. on va rester dans une veine un peu horrifique, un peu effrayante quand même, hein, pour deux autres séries dont tu voulais nous parler, toi Damien, l'une adaptée d'un jeu vidéo et l'autre qui est une anthologie réalisée sous la férule d'un des maîtres du fantastique contemporain.
The Last of Us, grand phénomène du jeu vidéo, connaît enfin une adaptation sur écran. Alors, on n'attend pas de tous les jeux vidéo qui soient adaptés, mais celle-ci, je l'attendais de manière intriguée parce que, bon, je joue aux jeux vidéo, mais je n'avais pas du tout envie de jouer à The Last of Us, mais je voulais quand même connaître l'histoire, donc la série me permet de tricher un peu là-dessus. Alors, le résumé pour ceux qui ne connaissent pas The Last of Us, l'humanité a été décimée à la suite de la mutation d'un champignon parasite, le Cordyceps. 20 ans après le début de cette pandémie, Joël, joué par Pedro Pascal, et Ellie, joué par Bella Ramsey, liés par la dureté du monde dans lequel ils vivent, se lancent dans un périple à travers ce qu'il reste des États-Unis. Au cours de leur voyage, ils devront faire face aussi bien aux infectés qu'à des survivants hostiles. Alors, avec ce résumé, vous voyez qu'on est dans un monde un peu post-apo, assez zombie, qui contient pas mal d'horreur, mais avec un côté road movie, road series, du coup, qui est extrêmement intéressant. Pedro Pascal retrouve ici un rôle qui connaît bien celui du père protecteur. Il jouait aussi l'homme charmant à une époque, mais il semblerait que le rôle du père protecteur lui va de mieux en mieux. Et Bella Ramsey, on l'avait déjà découvert à travers une autre série de HBO, qui est Game of Thrones, où elle jouait la redoutable et solide Lyanna Mormont avec sa petite maison, mais une fière maison. Et aussi récemment dans His Dark Materials, où elle a un rôle tout aussi cool. Et il y a aussi Anna Torrit qui joue dedans et qu'on a pu voir dans Manhunter, mais qui sera l'éternelle actrice de Fringe. Alors la série a énormément de bons retours, que ce soit de la part des gamers ou des personnes qui découvrent le show. Et c'est quelque chose qui est lié à un truc tout simple, mais qui fonctionne, c'est la proximité que la série a avec le jeu, notamment car le co-scénariste du jeu, Neil Druckmann, est aussi le co-scénariste de la série. Et lorsqu'il en parlait, il disait, enfin, selon lui, ça a permis de garder une proximité avec le jeu vidéo, de garder les thèmes et la vision, mais ça lui a aussi permis de développer certains personnages. Et c'est vrai que les épisodes qui ont fait le plus parler d'eux, malheureusement, c'est des épisodes qui font partie de la saison. Et pour réaliser ce show et le rendre aussi magistral, il est accompagné de Greg Mazin, qui, moi, me surprend toujours, parce que pour moi, il a réalisé les plus mauvais Scary Movie, mais c'est surtout le créateur et showrunner de la série Tchernobyl, qui avait été un énorme succès à l'époque pour HBO, et qui ici, refait ce qu'il avait su faire, c'est-à-dire que c'est une série qui parle de plein de sujets et qui en parle super bien, comme le deuil, l'humanité ou l'amour. Et l'une des forces de la série, c'est la caractérisation qu'elle a de ses personnages et de leur relation. On est assez proche d'un drame, mais du coup un drame de science-fiction. Et la particularité, c'est que contrairement au jeu, du coup on n'a pas du tout le gameplay action, donc on n'a pas à tuer des infectés, mais ça crée un rapport assez étrange qui est que la série, même si elle est présentée comme du post-apo zombie, au final, on a très peu d'infectés. On a surtout des humains qui réagissent par rapport à leurs émotions et qui font souvent ce qu'il faut pour survivre ou parfois pour retrouver des gens ou retrouver de l'amour et des proches. C'est une très belle série avec quelqu'un qui sait utiliser sa caméra, ce qui pour les séries est parfois assez rare, et sans aucun doute une des meilleures séries de 2022-2023. Et même si la série est produite par HBO, elle est visible uniquement sur Amazon Prime. Autre titre de streaming, Netflix, où je vais vous parler du cabinet de curiosité de Guillermo del Toro par Guillermo del Toro. Du coup, le nom entier de la série, c'est le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Ça fait un peu redondant, mais il faut quand même le préciser. Parce que souvent, dans les séries où il y a un nom majeur, la personne reste pour un ou deux épisodes, ensuite part. Alors, le résumé, c'est assez compliqué parce qu'en fait, on a affaire à une anthologie horrifique de 8 histoires différentes avec un réalisateur qui change à chaque fois. Guillermo, en fait, il ne fait que présenter au début la scénette qu'on va voir. Et cette série, c'est un gros coup de cœur parce qu'il y a beaucoup de monstres, et j'aime bien les monstres, mais surtout parce qu'elle est très Lovecraftienne, et évidemment, quand ça parle de Lovecraft, moi j'adore. Alors, ça en parle pas directement, ça en parle indirectement, mais ça en parle très bien. Il y a une grande qualité de représentation horrifique et les moyens qui sont mis dans la série sont très bien utilisés. L'horreur varie selon les épisodes. On a des épisodes qui sont plus psychologiques, d'autres moins. L'épisode 2 tombe assez dans le comique, je trouve. On a un épisode 8 très mélancolique et on a des épisodes lovecraftiens, un qui s'en inspire directement et un autre qui est littéralement une adaptation de l'histoire, ce que je trouve très drôle parce que c'est des épisodes qui arrivent quasiment au milieu et dès le départ pour moi c'était une série lovecraftienne et quand ils ont cité Lovecraft j'étais fier d'avoir un peu deviné à l'avance ce qui avait inspiré la série. Parmi mes deux épisodes préférés, je vais quand même vous en faire un résumé pour que vous en ayez une idée. Il y a l'épisode 5 fait par Keith Thomas qui s'inspire du modèle de Pickman de Lovecraft. Alors l'histoire se passe en 1909 à Artcam. On y suit Will Tumber qui étudie l'art et là-bas il y rencontre l'étrange et mystérieux Richard Pickman dont les œuvres sont effrayantes. Quelques années plus tard, en 1926, Will travaille désormais dans un musée et est devenu père de famille. Il est cependant hanté par des visions horrifiques rappelant les œuvres de Pickman qui apparaissent dans sa vie. J'aime beaucoup cet épisode parce qu'il mange deux trucs que j'apprécie énormément et qui me rappellent automatiquement l'appel de Cthulhu, c'est ce côté œuvre d'art et le côté horrifique qui s'en dégage. Et l'autre épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est l'épisode 7, qui est réalisé par Panos Cosmatos, qui lui se passe le 22 septembre 1979. On y suit Lionel Lassister, un homme très riche mais qui vit reclus. Il invite quatre amis dans sa belle demeure, le musicien Randall Roff, la physicienne spécialisée dans la vie extraterrestre Charlotte Singh, l'auteur à succès Guy Landon et le prétendu voyant Targ Regnard. Ils vont se lancer dans une expérience physique psychique via des substances psychotropes. Alors ça j'aime beaucoup parce qu'il y a une vibe très années 70 et il y a justement ce côté OVNI et science-fiction qu'on retrouve un peu dans les comics pulp d'antan. Si vous voulez apprécier un univers horrifique très lovecraftien mais pas uniquement, du coup je vous recommande Le Cabinet de Curiosité de Guillermo del Toro, disponible sur Netflix.
Vous écoutez toujours Culture Prohibée consacrée aux séries, parce qu'on s'est dit avec notre compère Damien, ça fait des années qu'on n'a pas fait d'émission en parlant de séries, de temps en temps on glisse une série de ci, de là, mais on en regarde quand même de temps en temps, même si on va plus voir des films au cinéma, mais de temps en temps on regarde quand même quelques séries. Et au milieu de toute l'offre sérielle de ces dernières années, on a donc sélectionné quelques séries. Alors on va changer d'univers, on était plutôt dans le fantastique, alors parfois teinté de comique, dans le fantastique ou dans l'horrifique teinté de comique. Là on va passer dans quelque chose deux séries policières qui sont tout sauf tentées de comique. Enfin, même s'il peut y avoir des moments drôles dans ces séries, évidemment, mais c'est quand même pas des séries où on rigole énormément. Je vais rester, moi, dans une série britannique, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de The Baby. Là, je vais vous parler de Happy Valley. Alors, Happy Valley, c'est une série télé britannique qui ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'elle est créée en 2014 hein, par Sally Wainwright. Mais la saison 3, par contre, vient juste d'être diffusée là en 2023. La saison 3 qui clôture, hein, en fait, hein, qui clôture, c'est la fin de la série, qui clôture en 6 épisodes, donc les aventures de Catherine Kaywood, qui est une fliquette dans la campagne du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, et là, elle arrive à la fin de sa carrière, elle va prendre sa retraite après 3 décennies d'investigation houleuse et une vie personnelle compliquée. Alors pourquoi cette vie personnelle est compliquée? Parce que elle vit dans l'ombre d'un certain Tommy Lee Royce. Tommy Lee Royce qui est campé d'ailleurs par James Norton. James Norton qui est peut-être le futur James Bond. Il en a le physique, ça c'est vrai. Il est britannique. C'est un acteur qui a déjà une quarantaine d'années, mais il a très peu tourné parce qu'il a très bien travaillé à l'école, ce garçon. Et il a dû commencer à tourner dans les années 2010, fin des années 2010. Il a d'abord enseigné le théâtre, il a fait plein de choses. Et là, il campe ce Tommy Lee Royce qui est alors psychopathe, sociopathe, on ne sait pas vraiment, en tout cas un pur taré comme on les aime, avec un charme fou, parce que c'est ça qui fait en fait la force du personnage, et qui était en fait l'amant de la fille de Catherine Kaywood, qui est interprétée elle par l'extraordinaire Sarah Lancashire. C'est une actrice anglaise, une actrice britannique qui a quasiment jamais tourné au cinéma. Mais on sait l'amour que les Anglais portent aux séries télé. En fait, il y a pas, pour un Anglais, il y a pas de différence entre la série télé. La série télé n'est pas la production télévisuelle n'est pas un sous-produit en Grande-Bretagne. Et elle a fait toute sa carrière comme ça. Elle a maintenant, je crois, 58 ans, cette actrice, 58-59 ans. Elle doit avoir dans ces eaux-là. Et elle a fait toute sa carrière à la télévision, quasiment. Elle a joué dans plein de séries qu'on aime. Elle a joué même dans des séries très modernes, hein, comme Skins. Elle a joué dans Doctor Who aussi. Hein, je sais que Damien est très content. Elle a joué Miss Foster dans Doctor Who. Et là, elle est magnifique, elle est extraordinaire dans ce rôle de flic usé par la vie, fatigué, qui élève donc toute seule son petit-fils, puisque sa fille s'est suicidée suite à une relation toxique avec ce Tommy Lee Royce. Ce Tommy Lee Royce, donc, quand même, qui a violé sa fille et cet enfant qu'elle élève, ce petit-fils, serait quand même le fruit d'un viol de Tommy Lee Royce, qui a quand même mené sa propre fille à se suicider, quand même. Donc, inutile de vous dire qu'en plus, c'est un garçon, qu'elle a beaucoup de mérite à élever, puisque dans la famille, il n'a pas toujours été perçu comme un garçon très désiré. On va dire, voilà. Et là, il est ado, ce garçon. Il a un prof un peu bizarre, un peu pervers manipulateur. Et ce prof a une compagne. Il lui fout sur la tronche, en fait. Hein, voilà, il tabasse sa femme. Sa femme est accro au médoc. Elle se fournit chez son voisin, qui est un pharmacien pas très regardant. Et pendant ce temps-là, il y a un des ennemis jurés de Catherine Kaywood. Parce que faut dire, c'est une flic de terrain. C'est ça qui est super dans cette série, parce que c'est pas la flic, la brillante enquêtrice et tout. Par contre, elle est brillante. C'est-à-dire qu'elle a un flair pour repérer tout ce qui va se passer. La série débute, le tout premier épisode de la saison 1, débute par un moment d'anthologie où elle essaye de convaincre un toxico grimpé sur un jeu pour enfants. Enfin, il est grimpé très haut en hauteur. Je ne sais plus sur quoi il est grimpé exactement. Mais il risque de se tuer s'il tombe. Elle essaye de le convaincre. Et dans l'échange qu'elle a avec lui, on voit tout de suite le profil, c'est-à-dire policière de proximité qui connaît les gens qui habitent son quartier, qui essaye toujours de régler les problèmes, mais qu'il ne faut pas trop faire chier non plus. Et j'adore ça. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en Grande-Bretagne, on devrait en prendre de la graine en France, les policiers ne sont pas armés. Donc du coup, ça crée parfois un déséquilibre par rapport à la violence possible de des voyous qu'ils ont en face d'eux et tout. Donc ça crée un petit suspense supplémentaire, si j'ose dire. Et là, Tommy Lee Royce, comme vous le savez, il a été arrêté dans la précédente saison. Enfin, si vous ne savez pas, je vous le dis du coup. Et là, il s'apprête à passer en procès, mais il va réussir à s'évader. Pendant ce temps-là, il va réussir aussi. Enfin, on ne sait pas trop. Ça, vous le verrez si vous regardez la série. Mais il va réussir à avoir une relation avec son fils qui vient le voir en prison. Voilà. Ça. dans le dos de Catherine Kaywood, qui va pas très bien le prendre d'ailleurs, je vous invite à voir sa réaction. Et je vais pas vous en dire plus, je vais juste vous dire que cette série, au niveau de la mise en scène, ça fait le job, hein, c'est pas, vous n'allez pas être marqué par la mise en scène, mais ce qui va vous marquer, c'est la caractérisation des personnages, c'est-à-dire que tout est juste. Cette flic, elle a une sœur qui est particulière aussi, c'est des personnages vibrants d'humanité, on y croit totalement en fait, de A à Z, et en fait, c'est un peu un drame aussi cette série, hein, et c'est en même temps une vraie série polardeuse. C'est en fait, c'est du roman noir, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle du roman noir, pas du film noir, du roman noir, quoi. Et d'ailleurs, la prochaine série dont on va parler, c'est ça aussi. C'est un peu ces deux séries qui se ressemblent, je trouve. Voilà, avec Catherine Kaywood qui est pas enquêtrice comme dans la série dont on va parler là, mais qui est une flic pleine d'instinct, qui a beaucoup d'expérience, qui peut faire preuve de beaucoup d'humour, mais qui est aussi qui a un caractère très dur, c'est un ours, comme on dit, hein, souvent. Voilà, en l'occurrence, ça, c'est une oursonne. Et la conclusion là, de la série est très belle parce qu'on découvre des choses. Il va y avoir une confrontation entre elle et ce fameux Tommy Lee Royce. Et c'est pour ça que je dis psychopathe ou juste sociopathe ou juste, voilà, ou juste un assassin, qui est, voilà, un mec qui a des carences affectives, mais qui n'est pas forcément. D'ailleurs, il parle de ça comme une maladie, lui, sa propension à tuer des gens. Et il y a une confrontation finale avec elle qui est bouleversante, qui est géniale, où en plus il y a une inversion un peu de la tendance, mais en même temps lui c'est un pervers manipulateur comme tous les personnages de ce type, donc est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit pas vrai, enfin je laisse les spectateurs seuls juges pour une conclusion magnifique à cette série magnifique, une série très courte, des fois ça fait du bien de pas avoir des séries de 70 épisodes et c'est très bien. Vous écoutez Culture Prohibée spéciale série. Autre mini-série qui est un peu pareil, sauf que ça se passe aux États-Unis, mais qui est un peu dans le même style, Mare of Easttown. C'est une série créée par Brad Inglesby, réalisée par Craig Zobel. Alors je rappelle que Happy Valley, c'est donc disponible sur MyCanal, et là, la série dont on va parler, elle est disponible sur OCS. Alors c'est une mini-série HBO. Et ça raconte l'histoire de Mare Cheehan, Mare of Easttown, hein, Mare qui habite donc Easttown, Mare Cheehan, qui est interprétée par Kate Winslet. Oubliez la Kate Winslet glamour, là, hein, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est l'histoire de cette détective qui est une détective bourrue, hein, qui a un sale caractère aussi, qui est vraiment une des figures de sa ville, quoi, qui est quelqu'un d'important dans sa ville, et qui est une sorte d'inspectrice Harry, sans la violence, c'est-à-dire qu'elle se fout un peu quand même des procédures et tout ça, mais par contre, évidemment, on est très loin de ce que peut prôner un inspecteur Harry, évidemment, elle ne sort pas son flingue, c'est pas le genre de la maison, voilà. Et il y a eu un meurtre, en fait, un meurtre d'une adolescente, enfin d'une jeune femme, ce meurtre qu'elle va pas réussir à résoudre, va la travailler. Très longuement. En même temps, il y a sa vie personnelle qui part un peu à la volo. Hein. C'est un peu le bordel, il faut dire ce qui est. Et donc, Mère va voir les fantômes du passé ressurgir, en particulier parce que de nouveaux meurtres vont avoir lieu. Et bien, Mère va se confronter, se coltiner à cette réalité terrible. Et Mère, qui est incarnée à la perfection par Kate Winslet, est un personnage en fait qui est une sorte d'incarnation de cette ville, de cette Amérique profonde, et un personnage plein de failles, mais aussi très fort, capable d'être très fort. Et c'est aussi une série, moi c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est une série sur l'échec, parce qu'en fait elle se plante très souvent, enfin c'est parfois avec des conséquences voilà assez dures pour elle. Et non, il n'y a pas que des super flics, ils sont pas tous hyper compétents, voilà. Et l'enquête, alors l'enquête comprend son lot de rebondissements, mais l'enquête c'est un peu comme pour Happy Valley, c'est aussi un prétexte pour nous parler de la société américaine et tout y passe, hein, c'est-à-dire, là pareil, on parlait de roman noir, là c'est la même chose, hein, on nous parle de la société américaine, à travers cette enquête on livre le portrait d'une société rongée par les opioïdes, hein, voilà, on voit les dégâts que fait l'opium aux États-Unis, on voit la dégradation de la cellule familiale, on voit comment dire la détresse morale qui va avec la pauvreté, la solitude de la vieillesse. On voit beaucoup de choses dans cette série et tout est abordé assez subtilement, je trouve. Et au final, c'est certainement l'un des portraits les plus justes de cette Amérique qui vote Trump, je pense. Voilà, donc c'est très intéressant parce qu'elle n'est pas caricaturée dans cette série. C'est pas des gros bourrins méchants, quoi. C'est une Amérique, c'est une Amérique dont personne ne s'occupe, en fait. C'est les grands oubliés de l'Amérique. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série, que tu as vu aussi, toi, Damien.
La ville a une esthétique d'ancienne ville ouvrière. Justement, elle n'est pas vraiment en déliquescence, mais elle n'est pas non plus. Elle respire pas plein poumon. Du progrès technique. T'en as fait une excellente description. Moi, il y a un point que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est que Mar incarne un peu le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire la personne qui pense qu'elle n'est pas qualifiée pour faire les trucs, mais tout le monde pense que si. C'est une série qui l'aborde de manière très intéressante dès le premier épisode, où elle met en avant une anecdote où on célèbre un panier qu'elle a mis lorsqu'elle était au lycée, que la ville a adoré, et il y a un étranger qui lui demande « mais ce panier était extraordinaire ?» Elle répond « non, pas du tout, mais dans cette ville, ça compte. » Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, notamment pour l'enquête, vu que la précédente enquête, elle n'a pas réussi, du coup, elle se sent un peu rabaissée par tout ça, et il suffit de la voir enquêter quelques minutes pour se rendre compte que non, en fait, c'est une excellente enquêtrice, et c'est juste la déliquescence de sa vie, les remords, les regrets du passé qui fait que ça la bloque encore aujourd'hui. Non, c'est une série extrêmement intéressante et merci Jérôme de me l'avoir montré.
Conclure cette émission après vous avoir parlé donc de Mare of Easttown que vous pouvez voir sur OCS. Nous allons conclure par une série que l'on peut également voir sur OCS et là pour le coup Damien c'est toi qui me l'as conseillé et que donc j'ai regardé. Alors du coup je vais avoir la lourde tâche d'essayer de résumer ce qui est absolument pas résumable. Faut dire les choses, voilà. On va vous parler de la saison 1 de House of the Dragon, parce que la prochaine va bientôt arriver. La saison 1 de House of the Dragon, qui donc se déroule. Alors c'est toujours George R.R. Martin à la baguette, il y a Ryan Condal qui l'aide. Moi, je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de voir ça, parce que j'adore Game of Thrones, en fait. C'est une série que j'adore. même sa dernière saison, je l'aime bien, voilà. Donc, je fais partie de ceux qui aiment vraiment la série jusqu'au bout. Et donc, je me dis, non, pas les spin-offs. Non, parce qu'il y a les spin-offs quand même du Seigneur des Anneaux, c'est quand même assez mauvais. Je me suis dit, non, ils vont pas nous tuer, Game of Thrones. Quoi. Ben non. Alors, je sais pas ce que ça va donner à la fin, parce que là, on en est qu'au début. Mais là, on a une série, House of the Dragon, donc qui se déroule 178 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen. Et son ancêtre, le roi Jaehaerys Targaryen, il tient un grand conseil pour nommer un héritier à la suite de la mort de ses deux fils aînés, mais aussi pour éviter une guerre civile. Et c'est le prince Viserys Targaryen, aîné des petits-fils du roi, qui est choisi comme héritier au détriment de la princesse Rhaenys Targaryen, fille unique du fils aîné et notamment héritier du roi. Vous suivez toujours ? C'est que le début du résumé. Hein. Voilà. D'ailleurs, Viserys qui est incarné par Paddy Considine, qui est un acteur que j'adore, acteur britannique que j'adore, et qui là est à peine reconnaissable quand même, hein, qui est une sorte de, qui va devenir un roi en fait, une sorte de roi juste, un garant de la paix, une sorte de comment dire, une sorte de Yasser Arafat de ce monde imaginaire, c'est-à-dire au milieu d'un monde en guerre, il arrive à lui tout seul, par sa sagesse, par sa grande sagesse, à maintenir la paix dans son royaume. Bon, le problème, c'est qu'il est très malade et que bah, la paix ne va pas être maintenue parce que sinon, il n'y aurait pas de série. Hein, voilà, neuf ans après avoir été nommé roi, il se trouve que lui, il n'arrive pas à avoir de garçon et sa femme est une nouvelle fois enceinte. Elle a fait beaucoup de fausses couches, elle a eu beaucoup d'enfants mort-nés. Et il pense, lui, qu'elle a un garçon là, dans son ventre. Et comment dire, lors du conseil restreint, Lord Corlys Velaryon, le maître des navires, avertit le roi et le reste du conseil de la menace que pourrait représenter la triarchie, une alliance de trois cités libres des Sauces qui revendiquent les degrés de pierre. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment pris au sérieux par les membres du conseil. Et Sir Otto Hightower, la main du roi, outré par la brutalité dont fait preuve le prince Daemon Targaryen. Alors, Daemon Targaryen, c'est le frère donc, de Paddy Considine, hein, le frère du roi Viserys, qui est campé par Matt Smith, hein, qui a été le docteur Wu, hein, voilà, et qui est juste sensationnel dans la série. Voilà, j'en dis pas plus. Et c'est même pas suffisant, sensationnel, pour décrire le charisme de dingue qu'il arrive à insuffler à ce personnage, qui est quand même à la base un personnage qu'on n'a pas envie d'aimer. Voilà, et puis il en fait autre chose. La main du roi, Otto Hightower, demande au roi que le prince soit renvoyé auprès de son épouse dans le Val, mais Viserys refuse. Et il va y avoir une joute équestre qui va être organisée pour fêter la naissance du nouvel héritier, donc de ce fameux garçon. La fille de Viserys, la princesse Rhaenyra, et son amie Lady Alicent, donc la fille de la main, vous suivez toujours, sont intriguées par Sir Cross Criston Cole, un chevalier de basse naissance, qui arrive à battre Daemon. C'est la seule fois qu'on voit Daemon à terre de toute la série, de toute la saison. Hein. Voilà. Au même moment, on ne vous dit pas dans quelles circonstances, mais la reine meurt, en fait, et il n'y a pas de garçon qui naît. Hein, voilà. C'est donc le roi est inconsolable. Il finit par prendre pour épouse Lady Alicent, donc la fille d'Otto, hein, mais par intérêt en fait pour le royaume, hein, parce que lui il a pas franchement envie de la prendre pour épouse. Il décide aussi de nommer sa fille, la princesse Rhaenyra, enfin d'en faire sa future héritière, mais on va dire que la nouvelle reine n'est pas vraiment de cet avis, que tout cela va un peu partir en sucette et que en plus elle est un peu amoureuse, Rhaenyra, de son oncle, hein, qui est donc Daemon, et tout cela va, comment dire, on va dire les choses simplement. Tout ça va fortement dégénérer au fur et à mesure en fait, de la dégénérescence du roi qui garde bien toute sa tête, hein, ça on le voit jusqu'au bout dans la série, hein, qui garde bien toute sa tête, mais qui est un roi en train de mourir en fait. On ne sait pas trop ce qu'il a comme maladie. Au début on peut se dire que c'est la lèpre, mais il n'est pas contagieux, on ne sait pas si c'est un cancer de la peau, on ne sait pas. Enfin il a une maladie où il décrépit. Bon il vit longtemps quand même, hein, parce que la série, moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont bien retenu la leçon de... On sent qu'ils ont moins de budget aussi, la leçon de Game of Thrones. C'est-à-dire que parfois entre deux épisodes, il se passe 6 ans, 8 ans, voilà, c'est plus les mêmes acteurs. On dit tiens, il a des gamins maintenant lui, tiens, il a des garçons, le roi, ouais, il en a 3. Bon, on savait pas, voilà. Et donc il va se passer plein de choses. Voilà, j'ai vraiment pas résumé grand chose, hein, parce que sinon, parce qu'il y a plein de personnages dont je vous ai pas parlé, c'est volontaire. Hein. Moi, je voulais juste dire que j'ai beaucoup aimé cette saison 1, que je trouve, en plus, c'est pas souvent que je trouve bien mise en scène. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a vraiment de la mise en scène. Si on regarde bien, chaque personnage a sa manière d'être filmé. Damon avec des contre-plongées pour le rendre encore plus imposant. Il y a une photographie qui alterne en fait entre des couleurs plus humides, plus pourrissantes, au moment où le royaume se fissure, le royaume se délite, la photographie aussi devient plus sombre, plus glauque, plus fin. Il y a un vrai travail sur le visuel. Il y a même des idées assez chouettes. Il y a par exemple une table de pierre là où les Targaryens font leur plan de guerre ou leur plan, enfin réfléchissent. Et pour qu'elle fonctionne, cette table de guerre, il faut lui mettre le feu. Et c'est une idée géniale, parce qu'en fait, eux aussi, les Targaryens, pour qu'ils soient en forme, il faut qu'il y ait le feu, quoi. C'est métaphorique, en fait, de leur état d'esprit, de leur état d'esprit très, très guerrier, voilà. Et puis les dragons ont un rôle différent, les dragons ne sont pas toujours obéissants, ça c'est une grande nouveauté, sont beaucoup plus importants. Où ils servaient surtout d'armes de guerre là, dans Game of Thrones. Là, ils ont un rôle beaucoup plus important. Enfin bref, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je ne veux pas révéler tout ce qui se passe dans cette série qui est une sorte de tragédie comme ça, mais tragédie fantasy, sans aucun pathos. Hein, comptez pas sur George R. R. Martin pour faire pleurer dans les chaumières. Hein. On va dire plutôt que ça tabasse. Écoutez Culture Prohibée spéciale série. Dernière chose, on sent que les critiques qui avaient été adressées à Game of Thrones sur la culture du viol, voilà, on sent que ça a un impact sur la série parce que les personnages féminins sont quand même beaucoup plus forts, beaucoup mieux développés et les scènes de sexe sont beaucoup plus prudes aussi. Pourtant, on y parle d'inceste, tout ça, hein, quand même. Hein, mais on y dévoile très peu de choses, en fin de compte, par rapport à toute l'orgie qu'on pouvait voir de déballage de chair dans tous les sens du terme dans Game of Thrones. J'ai presque envie de dire, c'est un petit regret parce que le côté subversif un peu de tout ça qu'il y avait dans Game of Thrones parce que c'était quand même subversif de voir des parties de jambes en l'air avec un nain. Moi, c'était quand même pas un truc qu'on voyait tous les jours. Voilà. Mais je trouve que la série, si elle est plus sage de ce côté-là, reste incroyablement puissante et dès que le personnage de Daemon entre en scène, il bouffe tout, quoi. Il bouffe tout l'écran. Il est interprété par Matt Smith. Matt Smith, quand même, drôle de carrière, parce qu'il devait être footballeur à Nottingham Forest. Hein. C'est un Anglais, il devait être footballeur en Première Ligue. Et il s'est blessé, visiblement, et il s'est reconverti en tant qu'acteur. Et il est très bon, d'ailleurs. Et là, il bouffe la série, en fait. Hein. C'est lui qui bouffe la série. J'ai un regret, par contre, vraiment, sur la série, parce que les acteurs, au fur et à mesure que les personnages grandissent, on change les acteurs. Et moi, je trouve que... l'actrice qui faisait la princesse Rhaenyra jeune, c'est-à-dire Millie Alcock, a un charisme, a une force, qu'en fait elle n'est pas gamine, hein, dans la série elle fait passer pour une gamine, mais elle a 23 ans, elle aurait très bien pu jouer la reine plus âgée. Et là, elle est remplacée par Emma Darcy, qui est une très bonne actrice, mais qui, je trouve, n'a pas le petit truc en plus qu'avait cette actrice, qui pour moi a été d'ailleurs cette actrice la découverte, puisque Matt Smith, on le connaissait, mais la découverte de cette série. Malheureusement, on ne la verra plus, puisqu'elle est remplacée par Emma Darcy. Voilà. C'est vraiment le seul petit bémol, mais là, je chipote parce que j'ai passé un très bon moment.
House of the Dragon, c'est vraiment un pari assez dingue. Déjà de faire un spin-off à Game of Thrones avec le succès et la chute que la série a connu, surtout le mettre dans les mains de Ryan Condal, qui ses plus grosses productions, il a fait avec Dwayne Johnson et ses Hercule et Rampage. Du coup, ça faisait un peu peur. Bon, dès qu'ils ont annoncé Matt Smith qui était casté, moi j'étais pour. Hein, Matt Smith, à cause de Doctor Who et qui subit le syndrome post-docteur, c'est-à-dire vous jouez le docteur dans la série et derrière vous jouez un méchant et généralement vous continuez à jouer que des méchants. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Jérôme a dit, mais il y a des points qui sont très intéressants, notamment Viserys qui est un roi de paix alors que tous ses ancêtres étaient des conquérants et qui se retrouve à avoir un royaume sans jamais avoir rien conquis, qui pose la question de qu'est-ce qui en fait lui un Targaryen. Aussi la présence des dragons qui est tout autre, comme tu disais, ils ne sont pas utilisés comme armes, enfin... C'est pas leur principale utilité et c'est aussi parce qu'on vit dans un monde qui a des dragons, qui les a toujours connus et qui a appris à vivre avec, où ce n'est pas une espèce éteinte qui est apparue. Il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est d'épisode en épisode, la série fait monter la tension. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un épisode se termine, on ne sait pas si derrière on va reprendre avec un décalage temporel de un an ou... de 5 à 6 ans, et ça crée un truc très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'un épisode se termine, on se dit là c'est bon, hein, derrière c'est la guerre, et ils arrivent à étirer la tension d'une manière absolument délicieuse. La grande force de House of Dragons, c'est au final de nous faire ressentir des sensations extrêmement familières, un peu comme revisiter la maison d'une ou d'un ami après que vous y ayez passé des vacances. On connaît les lieux, on sait plus ou moins où on se trouve, et pourtant il y a des choses qui ont évolué, et je trouve que c'est ça l'une des forces de House of Dragons, c'est qu'on retrouve énormément de sensations des premières saisons de Game of Thrones, au point que c'est Ramin Djawadi qui refait la musique du générique et du film. Et même si cette série-là a moins de budget, ils y mettent beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que Le Seigneur des Anneaux, qui a beaucoup plus de budget, mais moins d'efforts dans ce qu'ils font, alors qu'eux, avec très peu, ils font énormément. Donc si vous devez regarder une série fantastique, misez plutôt sur House of Dragon que sur Le Seigneur des Anneaux. Et au final, avec House of Dragon, HBO rappelle, et toutes les autres séries qu'on a nommées, qu'ils ont produites, rappellent que c'est un peu eux les maîtres de la série télévisée. En tout cas, si vous voulez voir House of Dragon, c'est sur OCS.
c'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Poitier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.